Mais qu'est-ce que c'est la magie blanche?
On appelle magie blanche la magie bienfaisante et magie noire la magie malfaisante. Magie blanche, c'est la magie que l'on fait pour faire du bien aux gens, et magie noire, c'est la magie que l'on fait pour leur faire du mal. Mais en fait, ce sont des mots, ça n'a pas de sens. Magie. C'est une connaissance qui est réduite à des formules purement matérielles. C'est comme des mots ou des chiffres ou des combinaisons de mots et de chiffres qui simplement, s'ils sont prononcés ou s'ils sont écrits, même par quelqu'un qui n'a pas de pouvoir intérieur, ils doivent agir. C'est en occultisme le correspondant des formules chimiques en science. Si en science, vous avez les formules chimiques pour combiner certains éléments et en produire d'autres, même si vous n'avez pas de pouvoir mental, ni de pouvoir vital, ni même de pouvoir physique, et que vous suiviez à la lettre la formule que vous avez, vous arrivez au résultat. Il suffit simplement d'avoir la mémoire. Eh bien, on a essayé en occultisme la même chose. D'avoir des combinaisons de sons, de lettres, de chiffres, de mots, qui ont, par leur propre qualité, le pouvoir d'obtenir un résultat. Ainsi, le premier imbécile venu, s'il apprend ça et qu'il fait exactement ce qu'on lui dit, il obtient, ou il croit obtenir, le résultat qu'il veut obtenir. Tandis que prenons par exemple le mantra, qui est un occultiste. À moins que le mantra ne soit donné par un gourou et que le gourou ne vous passe son pouvoir occulte ou spirituel avec le mantra, vous pouvez répéter votre mantra des milliers de fois, ça n'aura aucun effet. C'est-à-dire que dans le vrai occultisme, il faut avoir la qualité, la capacité, le don intérieur pour l'utiliser. Et c'est ça la sauvegarde. Le vrai occultiste ne peut rien, le premier imbécile venu ne peut pas le faire. Et ce n'est plus ni de la magie, ni de la magie blanche, ni de la magie noire, ni de la magie dorée. Ce n'est plus de magie du tout. C'est un pouvoir spirituel qu'il faut acquérir par une longue discipline. Et finalement, qui ne vous est donné que par une grâce divine. C'est-à-dire, que dès qu'on approche de la vérité, on est à l'abri de tout charlatanisme, de toute prétention et de tout mensonge. De ça, j'ai eu des preuves nombreuses et extrêmement concluantes. Et alors, celui qui a le pouvoir en culte véritable possède en même temps, par la puissance de cette vérité intérieure, le pouvoir de défaire toutes les magies blanches et noires de quelque couleur qu'elles soient, simplement par l'application d'une goutte de cette vérité, pourrait-on dire. Il n'y a rien qui puisse résister à ce pouvoir-là. Et ceci
est forcené
par tous ceux qui pratiquent de la magie, parce qu'ils ont toujours très grand soin dans tous les pays, mais plus particulièrement dans l'Inde, de ne jamais essayer aucune de leurs formules contre des yogis ou des saints, parce qu'ils savent que ces formules qu'ils envoient avec leur petit pouvoir mécanique très superficiel viendront frapper comme une balle sur un mur le vrai pouvoir qui protège celui qui a une vie spirituelle, et tout naturellement rebondira et retombera sur eux. Le yogi ou le saint n'a rien à faire. Il n'a même pas à vouloir se protéger. C'est une chose automatique. Il est dans un état de conscience et de pouvoir intérieur qui le protège automatiquement contre tout ce qui est inférieur. Naturellement, il peut aussi volontairement utiliser son pouvoir pour protéger d'autres. Ce rebondissement de la mauvaise formation contre son atmosphère le protège lui automatiquement. Mais si cette mauvaise formation est faite contre quelqu'un qu'il protège, ou qui simplement demande son aide, alors il peut, par un mouvement de sa propre atmosphère, de son propre aura, il peut entourer la personne qui est en but au maléfice magique. Et le procédé de rebondissement agit de la même manière et fait que la formation mauvaise retombe tout naturellement sur celui qui l'a fait. Mais là, la volonté consciente du yogi ou du saint ou du sage est nécessaire. Il faut qu'il soit mis au courant de l'événement et qu'il décide d'intervenir. Voilà la différence entre la vraie connaissance et la méchanceté.
Est-ce que la science physique par son progrès peut s'ouvrir à l'occultisme?
La science physique
peut s'ouvrir à l'occultisme. Pour s'ouvrir à l'occultisme.
Je ne l'appelle pas occultisme, c'est tout. C'est seulement une question de mots. Ils sont en train de découvrir des choses que les gens qui ont étudié l'occultisme il y a des milliers d'années savaient déjà. Ils ont fait un long circuit. Et puis ils arrivent à la même chose. Ils sont en train de faire des découvertes sensationnelles que ceux qui avaient la connaissance occulte savaient il y avait des milliers d'années. Les découvertes tout à fait récentes de la médecine, de la science appliquée, et ils sont en train de toucher comme ça avec un intérêt émerveillé des choses qui ont été connues par certains sages il y a extrêmement longtemps. Et alors, ils vous donnent ça comme des merveilles nouvelles, mais enfin, elles sont un peu vieilles. Ils finiront par en faire sans savoir qu'ils en font. Parce qu'au fond, dès qu'on s'approche de la vérité des choses, tant soit peu, et quand on est sincère dans sa recherche, qu'on ne se contente pas seulement des apparences, qu'on veut vraiment trouver quelque chose, on s'enfonce derrière les apparences. Alors on commence à avancer vers la vérité des choses. À mesure qu'on s'approche de ça, eh bien, on retrouve la même connaissance que celles qui ont commencé par entrer en rapporté de leur découverte intérieure. C'est seulement la méthode et le chemin qui est différent. Mais la chose découverte sera la même. Parce qu'il n'y en a pas deux à découvrir, il n'y en a qu'une. Forcément, ce sera la même. Tout dépend du chemin que l'on suit. Les uns vont vite, les autres vont lentement. Les uns vont direct, les autres font, comme je dis, un grand circuit. Et combien de travail? Comme ils ont travaillé. C'est très respectable d'ailleurs. Maintenant, ils sont en train de découvrir qu'avec l'hypnotisme, ils peuvent remplacer les anesthésiens avec des résultats infiniment meilleurs. Eh bien, l'hypnotisme, c'est une forme rendue moderne par l'expression de l'occultisme. Une forme très limitée, très petite, d'un pouvoir tout à fait limité en comparaison au pouvoir occulte. Mais enfin, c'est une forme d'occultisme sur laquelle on a mis des mots modernes pour le rendre moderne. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est très intéressant à un certain point de vue. Par exemple, on a essayé ce procédé d'hypnotisme pour quelqu'un dont on voulait faire une greffe de sa peau sur une blessure. Je ne me souviens plus des détails. Mais il fallait que le bras reste pendant 15 jours dans une position comme ça, qui, si on le fait en vous immobilisant par du plâtre et des bandages et des toutes sortes de choses, fait que lorsque les 15 jours sont passés, vous ne pouvez plus bouger. Tout est ankylosé et il vous faut des semaines et des traitements pour pouvoir recouvrer le libre usage de votre bras. Dans ce cas-là, on n'avait rien. On n'avait rien lié, immobilisé matériellement, pas de plâtre, pas de bandage, rien. On avait simplement hypnotisé la personne et on lui avait dit qu'elle tienne son bras comme ça. Elle l'a tenu pendant les 15 jours, sans effort, sans difficulté, sans que sa volonté ait besoin d'intervenir. C'était la volonté de celui qui l'avait hypnotisé, qui est intervenu. Ça a parfaitement réussi, le bras est resté dans la position voulue. Et quand les 15 jours ont été passés, qu'on a défait l'hypnotisme, qu'on lui a dit « maintenant vous pouvez bouger », c'est bien bougé. Mais ça, c'est un progrès. On va se rencontrer bientôt. Ce ne sera plus du tout qu'une question de mots. Alors, si on n'est pas trop obstiné, je pense qu'on peut s'entendre sur la valeur des mots.
Je me rends compte que l'hypnotisme a un mal effet après sur la personne sur laquelle on fait.
Non. Si quelqu'un fait de l'hypnotisme pour imposer sa volonté sur un autre, évidemment, ça peut faire beaucoup de mal à l'autre. Mais ça, nous parlons d'un hypnotisme qui est fait d'une façon humanitaire, peut-on dire, et pour des raisons précises. On peut éviter tout mauvais effet si celui qui le fait n'a pas de mauvaise intention. Si vous employez des formules chimiques d'une façon ignorante, vous pouvez produire une explosion. Et ça, c'est très dangereux. Eh bien, si vous employez des formules occultes avec ignorance, vous pouvez aussi avoir, ou avec égoïsme, ce qui est encore pire que l'ignorance, vous pouvez avoir des effets maléfiques. Mais ce n'est pas que l'occultisme est mauvais, ou que l'hypnotisme est mauvais, ou que la chimie est mauvaise. Vous n'allez pas bannir la chimie parce qu'il y a des gens qui font des explosions.
Mais pour apprendre l'occultisme, il faut avoir des qualités spéciales, n'est-ce pas? Tandis que pour apprendre la science...
Mais pour toute chose, il faut avoir des qualités spéciales, n'est-ce pas?
La connaissance scientifique est écoutez, à la portée générale.
Si vous n'êtes pas un artiste, vous pouvez travailler pendant des années avec des brosses, des pinceaux, des couleurs, des toiles, et dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts et faire des choses horribles. Si vous n'êtes pas un musicien, vous pouvez vous atteler pendant des heures à jouer du piano et vous ne ferez jamais rien de convenable. Il faut toujours des qualités spéciales. Mais même un athlète, si vous n'êtes pas né athlète, vous pouvez bien essayer tant que vous voulez, vous ne réussirez qu'à une chose tout à fait moyenne et ordinaire. Ça sera mieux que celui qui n'essaye pas, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez réussir. D'ailleurs, si on va un pas plus loin, tout le monde a au-dedans de lui des possibilités innombrables qu'il ignore et qui ne se développent que si on fait ce qu'il faut de la manière qu'il faut. Mais il y a deux genres de progrès, il n'y en a pas un seul. Il y a le progrès qui consiste à rendre plus parfait les possibilités, les capacités, les facultés et les qualités que l'on a. Ça, c'est généralement ce que l'on obtient avec l'éducation. Mais si vous faites un développement normal et un peu plus approfondi en vous approchant d'une vérité plus profonde, vous pouvez ajouter aux qualités que vous avez des qualités nouvelles qui sont comme endormies dans votre être. Vous pouvez multiplier vos possibilités, les agrandir, les augmenter. Vous pouvez faire surgir tout d'un coup quelque chose que vous ne pensiez pas avoir. Je vous ai expliqué ça déjà plusieurs fois. Quand on découvre son être psychique au-dedans de soi, en même temps, il y a des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire et qu'on croyait ne pas avoir dans sa nature, qui se développent et qui se manifestent d'une façon tout à fait inattendue. Ça aussi, j'en ai eu des exemples multiples. Je vous en ai donné un que je vous répète encore une fois pour me faire comprendre. Je connaissais une jeune fille qui était née dans un milieu très ordinaire, qui n'avait pas reçu beaucoup d'éducation et qui écrivait un français qui était un petit peu maladroit, qui n'avait pas cultivé son imagination et qui n'avait absolument aucun sens littéraire. Ça paraissait être parmi les possibilités qu'elle n'avait pas. Eh bien, quand elle a eu cette expérience intérieure de contact avec son être psychique, et tant que le contact était vivant et très présent, elle écrivait des choses admirables. Quand elle retombait de cet état dans un état ordinaire, elle ne savait même pas mettre deux phrases ensemble d'une façon correcte. J'ai eu les deux choses dans les mains. on a un génie au-dedans de soi, on ne le sait pas. Il faut trouver le moyen de le faire sortir. Mais il est là qui dort. Il ne demande pas mieux que de se manifester, il faut lui ouvrir la porte.